messieurs les producteurs de cinéma sonore. Regardez-moi, regardez-moi encore. De la tête aux sandales, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour faire une vedette.
Bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler d'une exposition qui a lieu du 2 décembre au 7 janvier. On en parle juste après le générique. Ce matin, pour m'accompagner, deux invités dans le studio pour parler d'une exposition qui s'appelle Sur Papier à la Galerie de l'Est avec Daria Brient. Bonjour Daria.
Bonjour Brient.
Bienvenue sur Graphite. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu dans le studio. Depuis votre dernier passage, il y a eu quand même l'ouverture de la galerie avec un nouvel espace. On revient un peu rapidement sur cette histoire.
Oui, ça fait déjà un an et demi à peu près. Donc on s'est réouvert de Promenade Saint-Pierre-des-Minimes. Donc on se trouve maintenant juste en face de l'église Saint-Pierre.
Comment ça s'est passé ce déménagement, cet achat de bâtiment, ce changement? Il y avait besoin, il y a plus de passages à côté de la halle Saint-Pierre?
Oui.
Ouais.
Oui. Beaucoup, beaucoup plus. Donc par exemple, l'exposition de Vam et Jean-Pierre Gilson qui s'est passée mois de septembre. Donc on a battu le record de passages. On avait plus que 1100 personnes qui sont passées pendant les 5 semaines d'exposition. Donc jamais vu rue de 2 milliers.
À la genèse, la galerie, c'était Galerie de l'Est. Donc c'était pour faire venir des artistes de l'Est de l'Europe. Depuis le conflit, du coup, justement, entre la Russie et l'Ukraine, ça a dû chambouler puisqu'il y avait des Ukrainiens qui venaient, des Russes qui venaient. Comment ça se passe aujourd'hui pour faire venir ces artistes-là?
Mais je travaille toujours avec mes artistes avec qui j'ai commencé il y a déjà 6 ans. Donc j'ai mon pool d'artistes et j'essaie de les faire venir. C'est beaucoup plus compliqué maintenant, la logistique elle est complètement rompue. Donc maintenant, j'organise les résidences. Donc mes artistes, ils viennent et ils peignent sur place pour préparer les expositions, ce qui était le cas de l'exposition « Tel endroit, tel moment » pour Evgenia Bouravlov et Igor Plotnikov, ce qui s'est passé mois de janvier. Et donc ils ont passé un mois au sous-sol de la galerie parce qu'il y a aussi une salle de à peu près 60 mètres carrés juste sous la place de Minimes. Et donc on a organisé de la place pour qu'ils puissent produire. Et donc... l'exposition qui s'est passée sur deux lieux, c'était Espace des Minimes et la Galerie de l'Est. Donc, au total, une cinquantaine des œuvres ont été faites en un espace de un mois.
Donc là, maintenant, vous avez votre logement au-dessus de la galerie en dessous et un lieu de création en dessous de la galerie.
C'est ça, oui, parce qu'il y a, on a déménagé finalement au mois de juin, nous, avec mon mari, mes enfants, et donc on est en train de finir aussi l'appartement où on pourra héberger aussi les artistes.
C'est plus facile d'avoir la galerie en bas de chez vous et puis...
C'est génial. C'est très très pratique, surtout avec les petits-enfants.
Ouais, ça vous permet de pouvoir facilement aller dans les étages, de descendre facilement à la galerie, d'aller voir les artistes, comment ils travaillent.
Je surveille pas, je leur fais complètement confiance.
Vous êtes aujourd'hui avec Vincent Guillet pour les éditions Voix de Garage. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Brian.
On va parler donc de cette exposition qui s'appelle Sur Papier. C'est la première fois, Daria, que vous faites de la micro-édition de l'édition d'art?
Oui, c'est toute première fois. On s'est croisés mois d'octobre, je crois. Et en fait, j'avais un souci avec l'exposition de décembre qui a sauté. Et donc, je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose? Je fais rien. Et donc, on s'est croisés avec Vincent comme ça dans la rue de Compiègne. On a discuté qui fait quoi en ce moment. Et donc, j'ai dit que peut-être je vais faire quelque chose avec les petits formats pour mois de décembre. Et donc, j'ai pensé aussi aux artistes de Vincent parce que lui, il travaille avec pas mal des artistes pour tout ce qui est les gravures. Hein. Parce que pour ses livres, il intègre les gravures, soit sur la couverture, soit même il y a des livres avec tout.
Vincent, bon, déjà, Vincent, vous pouvez parler, hein, si vous voulez.
Oui, Vincent me montre des livres. Il y a le travail de Catherine Gringer, par exemple, pour la couverture bande passante. Et après, on a un livre avec une vingtaine de gravures, linogravures de Dominique Scaglia, et donc ce sont des petits formats très très sympas.
Les éditions de garage, l'édition de Voix de Garage est une maison d'édition de micro-édition, typographe artisanale, c'est ça un peu la thématique, comment on pourrait dire artisanat d'art? Comment on peut vous définir? Vous êtes écrivain là-bas, c'est ça, vous?
Ouais, enfin, écrivain, traducteur, donc j'ai eu des bourses d'écriture, j'ai publié dans des maisons d'édition.
Donc en fait, c'est l'amour des mots qui vous a fait arriver à l'édition ou...
Oui.
Ou c'est parce que vous n'aviez pas d'éditeur?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas. Alors, en fait, moi, le principe de l'édition telle que je la conçois, ce n'est pas de se publier soi-même. Bon, cela dit, ça peut aussi être légitime de se publier soi-même. Mais la question, c'est que cet amour des mots m'a amené à une certaine urgence. Quand je me suis rendu compte. Qu'on ne pouvait plus imprimer au plomb nulle part. J'ai vu toutes les imprimeries de la région et aussi à Paris ou en France, en fait, fermer petit à petit. Et comme j'aimais toutes ces petites maisons d'édition qui imprimaient des petits textes, ça touchait peut-être à la bibliophilie, mais aussi parfois à des choses très simples, notamment la micro-édition d'il y a 30 ou 40 ans. J'ai vu que ça, c'était vraiment en train de partir. Et en fait, j'ai été rattrapé par... on est toujours rattrapé par les choses qu'on aime. J'ai été rattrapé par des imprimeurs, des vieux, qui m'ont... avec qui j'avais déjà discuté, qui m'ont appelé pour en fait m'apprendre le métier. Parce que j'avais déjà commencé à imprimer grâce à un poète picard qui s'appelle Pierre Garnier. Et donc, j'avais, avec Pierre Garnier, travaillé en Allemagne, donc dans la ville de Cologne, avec un artiste typographe qui s'appelait Richard Müller, qui est mort il y a un an. Et donc, avec lui, j'ai commencé à apprendre les bases du métier. Mais quand je suis rentré en France, les ateliers de typographes et les imprimeries, comme je vous l'ai dit, tout était en train de fermer. Donc j'ai eu l'occasion de faire trois livres exactement avec les éditions de l'Arbre dans l'Aisne à Zijoui, qui est une maison d'édition aussi qui existe depuis 40 ans. Et puis peu à peu, en fait, c'est surtout les imprimeurs qui m'ont dit que je devais travailler dans l'imprimerie typographique parce que j'avais cet intérêt-là. Donc en fait, on peut être appelé à faire des choses. Parfois parce qu'on le veut, ou aussi parce que parfois d'autres personnes le veulent pour nous. Voilà.
Là, la typographie, c'est des contraintes. Hein. Alors déjà, vous travaillez avec le plomb, on le sait aujourd'hui avec le saturnisme, etc. Donc il y a quand même des choses. Non, vous me faites non de la tête. Il y a également les machines, parce que c'est pas des petites machines, c'est des machines souvent très lourdes. Donc là, toutes les anciennes machines, elles sont parties chez le ferrailleur, malheureusement. Vous avez commencé comment avec ? Vous avez sauvé une machine ? Comment ça s'est passé la première ? Comment vous travaillez aujourd'hui ?
D'abord, j'y suis allé complètement à reculons, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à racheter du matériel, j'étais plus en Picardie, j'étais libraire dans le sud de la France, et donc il y avait une petite imprimerie typo Azur qui était en train de fermer. Je suis rentré dans cette imprimerie et j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer. Le mec m'a dit « bah prends ce que tu veux, tu me donnes ce que tu veux ». Alors je suis arrivé avec une valise DLC. J'ai mis une presse à épreuve dans la valise DLC, ça faisait déjà 70 kilos. Et puis après, j'ai fait des allers-retours entre mon studio et son imprimerie pour amener des cases de caractère. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire je me suis promené dans le train avec des kilos de plomb, des trucs. Bon, c'était assez rocambolesque. Plus des gens qui voulaient m'aider mais qui n'imaginaient pas que c'était du plomb que j'avais dans les valises, enfin bref. Et puis, c'est là que je me suis dit, bon, il faut que j'investisse dans une voiture. Donc la voiture a permis de transporter un peu plus de matériel. Puis après, il a fallu louer des camions. Puis après, il a fallu s'installer dans un garage plutôt que dans la cuisine d'un copain qui avait aussi besoin de cuisiner. Donc le bœuf bourguignon au plomb, c'est peut-être pas l'idéal. Cela dit, concernant la petite allusion
au saturnisme,
il y a quelque chose de très bien et de très négatif derrière cette histoire du plomb, c'est que le plomb froid tel que je le pratique, c'est-à-dire des caractères de plomb mobile qui ont été fondus il y a 100 ans, c'est pas un plomb qui va me faire du mal.
Okay.
C'est le plomb fondu, en fait. Ce sont les vapeurs de plomb. Et le plomb froid, oui, ça pourrait aussi me faire du mal si, par exemple, je me mettais à en mâchouiller toute la journée.
Donc si on a des tuyauteries en plomb, en fait, il n'y a pas de problème.
Ah mais c'est pas la même chose, les tuyaux triomplons, parce qu'il y a de l'eau qui passe dedans, ça s'oxyde, et là vous attrapez le saturnisme. En fait, il y a eu des traités sur le saturnisme qui ont été écrits dès la fin du 19e siècle. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bien sûr, les typographes mouraient du saturnisme. En France, je dirais qu'il y a eu des cas de mort du saturnisme avant 1914. Et puis, c'est essentiellement le saturnisme et le plomb, c'est des conditions d'hygiène. Moi, tous les vieux copains typographes qui ont vraiment passé toute leur vie dans le plomb aujourd'hui, ils meurent pas du saturnisme. Certes, on a les doigts gris, il faut éviter de manger dans son atelier, de se mettre les doigts dans la bouche, ce qui est très dur en fait, parce qu'on a tous plus ou moins l'habitude de se mettre les doigts dans la bouche, donc il faut pas le faire. Donc par rapport au saturnisme, ça craint pas. Et une fois qu'on est assez assuré par rapport à ces conditions de sécurité et d'hygiène sur le plomb, on peut commencer à en fondre.
Donc là, la disparition de ces machines et de ce travail, en fait, c'est plus parce que maintenant il y a le numérique, c'est beaucoup plus simple que de mettre des caractères dans des cases pour pouvoir imprimer des choses. C'est ça, en gros, là. Vous n'avez pas compris la question ? Je disais, en gros, pourquoi la disparition de la typogravure ? Pourquoi cette disparition ? C'est pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est plus simple de faire une impression sur Internet, enfin sur un ordinateur, de prendre... C'est l'ordinateur qui a fait disparaître le métier, en vrai.
Oui, oui. Alors, c'est l'ordinateur, c'est... En fait, ça a comment... La disparition du plomb, c'était déjà annoncé dès la fin du 19e siècle, en fait. Avec l'automatisation. On a voulu, en fait, tout automatiser, des machines voilà, qui ont commencé pour faire gagner du temps. Le problème, c'est que derrière cette culture du plomb, il y a toute une culture. Toute une culture et un art. Ce sont des arts, donc il y a des tas de métiers. Des métiers certes de l'industrie mais aussi de l'artisanat et peu à peu ce sont des métiers qui tous les uns après les autres se sont délités.
C'est lesquels comme métiers ?
Vous avez les métiers du papier. Quand je pense à la vallée de l'Oise, il y avait énormément de papeterie, aujourd'hui il n'y en a plus.
Donc là, vous travaillez avec des papiers particuliers pour revenir à l'exposition. Là, on a quelques exemples dans le studio. C'est quoi Alors, il y a des papiers de couleur, des papiers qui sont tout simplement couleur papier marron, des papiers bleus, des papiers blancs. Comment vous les récupérez? Comment ça se passe, le choix du cartonnage, le choix du papier?
Alors, parfois, je mélange des papiers de luxe avec des papiers d'usage plus que courant, puisque le papier marron, c'est du papier craft.
Craft, ouais.
Donc, le craft, on l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Pour l'emballage, mais on ne l'utilise pas pour imprimer. Sauf que, à l'impression, du papier craft imprimé, c'est parfois très heureux quand on utilise les bonnes encres. Après, il y a aussi les encres qui sont récupérées. Donc je fais le tour des imprimeries et je récupère des pots d'encre pour réussir à imprimer avec ces vieilles encres. Comme ça, en fait, on ne les jette pas et on imprime.
Là, c'est quoi celui-ci? Vous pouvez le présenter?
Oui, alors je vais vous présenter Monotango. Alors, ce qui est intéressant pour l'histoire de Monotango, c'est qu'on a d'abord fait un essai en numérique avec une petite maison d'édition arlésienne, donc qui s'appelait Les Arêtes. Et donc, il avait fait un petit livre exactement le même, en fait, mais en numérique. Le problème du numérique, c'est que, rapidement, les gravures, elles s'effacent. Elle s'efface, c'est beaucoup plus plat. Globalement, c'était un petit livre qui coûtait pas très cher. Hein. On le vendait 3 euros. Il y avait un diffuseur derrière. Donc, ça a circulé un petit peu partout dans toute la France. Et puis, ça s'est arrêté parce qu'on a épuisé le tirage. Et là-dessus, moi, je me suis dit... ce serait quand même beau, plus beau de le faire au plomb. Donc on a pris le temps qu'il fallait pour le réaliser, pour trouver les papiers. Donc c'est un papier, je dirais, c'est du 100 grammes, donc pour le papier d'intérieur, et puis pour le papier de couve, ça doit être un 200 grammes, donc un, donc pour le petit secret, donc c'est un craft. En fait, ce sont des chemises craft qu'on a coupées au format de la couverture. Et ça fait un petit ensemble assez sympa qu'on vend pas très cher parce que je crois qu'il y a pas loin d'une quinzaine de gravures dedans. Et puis un peu de texte composé également au plomb, en caractère qu'on appelle les caractères Vendôme, dont le surnom est le Garamond rustique. C'est un Garamond qui est un peu trapu et qui va assez bien avec ces petites gravures d'inspiration sud-américaine.
Comment vous avez vendu le projet, l'exposition à Daria? Comment, quand vous êtes rencontrés, vous avez parlé de quoi? Elle vous a dit « Ah, je tiens une galerie », et vous avez dit « Moi, je fais des éditions ». C'était quoi la rencontre, vous vous en souvenez?
C'est parce que avec Daria, on se connaît de vue depuis plus longtemps, depuis la naissance de sa première galerie, où elle a commencé à exposer des artistes russes, mais pas seulement. Ce qui, pour Compiègne, est quand même très audacieux, d'avoir une galerie d'art contemporain. Je suis toujours respectueux, heureux de voir qu'il y ait des initiatives comme ça, c'est-à-dire...
Vous étiez devenu en tant que spectateur, quoi, en tant que, voilà, vous venez voir les œuvres.
Voilà, et puis, je lui avais déjà parlé un petit peu de mes activités, et j'en avais parlé peut-être dans le but aussi de parler des artistes avec qui je travaillais. Et puis ça s'était arrêté là. Et puis quand on s'est rencontrés en octobre, je lui ai dit que je continuais de faire des expositions un petit peu partout. Donc pas forcément en Picardie, mais aussi en Corrèze, en Provence. Et donc du coup que je bougeais beaucoup. Et c'est vrai que dans l'Oise, par contre, un peu moins.
C'est toujours plus dur de travailler dans les endroits où on habite. Hein. En général, nul n'est prophète dans son pays, hein, c'est un peu ça.
C'est ça.
Le petit format pour les fêtes de Noël, le but c'est de pouvoir faire des cadeaux à mettre au pied du sapin?
Oui, aussi ça.
Ouais. Ouais.
Parce qu'en général, en galerie, on ne vient pas à la galerie au mois de décembre. Parce qu'on se trouve que ce sont des choses chères, qu'on n'achète que pour nous-mêmes, pour se faire plaisir, mais pas pour les autres.
Ah oui, donc en fait, quand c'est l'achat de galerie, c'est l'achat coup de cœur pour nous-mêmes, et là, c'est l'achat... pour offrir.
Donc on a essayé, oui, d'offrir une variété des artistes, une variété de propositions, des petits formats, des livres. Donc il y a pour tous les goûts. Hein.
Comment c'est mis en scène dans la galerie? Comment vous les mettez? C'est comme chez un libraire, c'est accroché au mur, parce que le but c'est quand même qu'on puisse le feuilleter. C'est mis dans des rayonnages un petit peu comme dans les bouquins, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les trucs en ferraille.
Il faut venir voir.
Pour les auditeurs, qu'ils sont dans leur voiture.
En fait, on a fait un très, très, très bel ensemble, parce que déjà, pour la première fois, on présente les livres et les artistes qui ont travaillé pour ces livres directement sur les murs de la galerie. Donc on présente les œuvres des artistes et des livres qui sont...
D'accord, donc en fait à la galerie, il y a les œuvres en plus grand ou ce format-là, c'est le même format, ouais.
C'est plus grand.
C'est en plus grand, ok. Ouais. Et du coup, ok. Donc en fait, on peut aller voir les œuvres, on peut aussi acheter les œuvres ou on peut... Ouais, les
on
deux.
On peut acheter des œuvres aussi.
Et le choix, comment s'est fait le choix? Comment vous avez fait? C'est un choix que vous avez fait ensemble. Vous êtes venu avec plusieurs artistes. Enfin, comment vous avez fait monter tout ça?
Ouais, je faisais confiance à Vincent, donc il avait déjà sa liste d'artistes, donc on a accepté tous les artistes avec qui Vincent travaille, et moi j'ai aussi retrouvé les artistes, mes artistes qui travaillent sur papier, et j'ai invité aussi certains nouvelles artistes, nouveaux artistes de pays de l'Est pour montrer aussi leur travail, donc pour amener encore plus de variété et le choix.
On donne les noms des artistes avant d'écouter un extrait musical qui sera présent, même une petite sélection.
Mais par exemple, pour Vincent, je te laisse présenter tes artistes.
Je dis juste leur nom.
Bah ouais, leur nom et peut-être les techniques qu'ils utilisent, si okay. Vous les avez de tête.
Oui, bien sûr. Ouais. Alors, vous avez Sylvie Gosselin, une amiénoise photographe qui travaille sur toutes les techniques d'impression, de tirage photographique. Donc elle s'intéresse depuis des années aux cyanotypes, et notamment des cyanotypes à plusieurs couleurs.
Ce qui est, c'est quoi le cyanotype ?
Alors le cyan...
c'est une couleur par une c'est
alors aujourd'hui
par couleur.
Alors en fait, on peut aller jusqu'à 3-4 couleurs pour les cyanotypes, ce que les gens ne savent pas forcément, puisque en fait, il y a avec le loisir créatif, aujourd'hui, on fait un seul mélange et c'est toujours du bleu. Alors qu'elle touche au bleu avec des nuances de détails qu'on remarque pas forcément chez des gens qui débutent, c'est évident. Donc c'est encore des techniques, enfin toutes les techniques des voies de garage, c'est des techniques qui sont accessibles à tous, évidemment. Après, c'est qu'une question de travail. Si vous passez le temps qu'il faut, et ben, si vous y mettez tout votre temps, en fait, vous arrivez à des trucs qui sont techniquement très intéressants. Donc Sylvie Gosselin, c'est une technicienne de la photo et en même temps une artiste parce qu'elle travaille donc sur ce cyanotype et qu'elle arrive à en faire des cyanotypes à plusieurs couleurs. Voilà. Donc il y a ensuite Nina Malheur. Donc Nina Malheur, elle est lithographe et aussi peintre.
Donc la lithogravure, c'est le gravage sur du plastique type. Ah non, ça c'est linogravure. Lithogravure, c'est sur de la pierre.
C'est ça. C'est sur de la pierre avec des bêtes à cornes. Et donc Nina Malheur est franc-comtoise et elle habite dans les montagnes. Ce qui fait que quand elle fait des gravures, elle s'inspire beaucoup des gravures ou des dessins ou des peintures. Elle s'inspire de ce qu'il y a autour d'elle, c'est-à-dire les montagnes. Voilà, elle habite toute seule dans la montagne, à flanc de colline, enfin flanc de montagne, avec les loups, tout ça. Enfin, c'est absolument génial et ça l'inspire. Et comme on s'est rencontrés dans un atelier, bah voilà, on fait.
Je vais juste ajouter que sur l'affiche, vous pouvez voir l'œuvre de Nina Malheur.
C'est cette affiche-là, c'est ça ?
C'est ça. Okay.
On la mettra sur la page Facebook de la radio, si vous voulez la voir. Et puis de toute façon, on mettra le lien également de l'exposition.
Ensuite, il y a Dominique Scaglia. Alors, Dominique Scaglia, il est bien connu des Aminois, parce qu'en fait, c'est un graveur et peintre qui travaille depuis 40 ans, donc à Amiens. Et donc, qui m'a aidé au début des éditions des Voix de Garage à travailler sur la conception des livres. Mais qui est aussi un artiste très intéressant, parce qu'il s'intéresse à des formes populaires de la gravure et de l'imagerie. Voilà. Ensuite, vous avez Aïda Sounouroglou. Alors, Aïda Sounouroglou, une Parisienne qui a depuis migré à Montpellier, et elle qui est sérigraphe, et avec qui donc, j'ai fait un petit livre de Nazim Hikmet. Et on a fait aussi une affiche ensemble. Donc cette affiche, si vous passez dans la rue de la galerie, vous pourrez la voir. C'est une femme serpent, une espèce de déesse chamane. Voilà. Ensuite, vous avez Marc Valentin. Donc Marc Valentin, graveur buriniste, c'est une autre technique de gravure. C'est une des techniques d'ailleurs les plus coûteuses. Parce qu'en fait, il s'agit de graver avec une pointe. Dans des plaques de cuivre. On grave avec une pointe dans des plaques de cuivre ce qu'on veut. Donc pour le coup, lui, il est dessinateur et peintre. Et j'ai fait un livre d'artiste dans les règles de l'art qui est là pour le coup fort coûteux et qui a tout à fait sa place dans une galerie parce qu'on ne peut pas mettre ce genre de livre dans une librairie. D'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport au positionnement de Daria, c'est que elle est dans la même rue que la librairie des Signes, et à la librairie des Signes à Compiègne, il y a quelques-uns de mes livres. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte que quand je mets l'un de mes livres parmi tous les autres livres qui sont fabriqués avec les techniques d'aujourd'hui, mes livres sont faits à la main. Et grâce au travail de Daria. Donc au bout de la rue, on peut voir, on peut prêter attention à ces petits formats qui en fait sont tous faits grâce à des artistes.
Voilà. Daria, pour vous les artistes, on va commencer par les artistes locaux.
Oui, on a quelques artistes qui sont compiénois ou proches compiénois, donc notamment Tadé. Donc Tadé, il fait des collages, fantasy. Elle a eu son exposition aussi à Espace Saint-Pierre-des-Minimes au mois de septembre, donc on a pu voir son production sur les cieux, tout ce qui est imaginaire, cosmique, étoile, etc. Donc à la galerie, on dessine un petit peu et on est plus vers la fleur, donc des choses très sympathiques. Toujours dans des ensembles très fantastiques que l'arrive à créer et aussi réveiller notre imagination.
Pareil, Tadé, c'est une visiteuse de la galerie qui est venue et qui est devenue, qui vous a rencontré et vous avez discuté. C'est comme ça que ça s'est fait un peu le contact aussi ?
Non, elle est venue tout de suite pour présenter son travail. Okay. Donc à l'époque, elle venait de déménager à Compiègne et donc elle faisait les visites des endroits culturels. Voilà, à Vam et Jean-Pierre Gelson, donc l'exposition qui s'est passée aussi au mois de septembre à la galerie, donc on représente à nouveau quelques œuvres, donc les photographies de la série La Lune n'a rien à craindre des loups. Donc c'est la série que Vam et Jean-Pierre ont travaillé dans la forêt de Compiègne. Et donc c'est une fusion entre le corps et le végétal. Donc on va pouvoir redécouvrir six photographies de cette série. Et aussi les dessins, gravures que a fait Vam aussi. Donc là, ce sont les lignes gravures plus dessins. Donc finalement, ce sont des œuvres uniques. Et donc on a aussi trois œuvres de cette série. Voilà.
Et pour les artistes de l'Est ?
Et pour les artistes de l'Est, on a quand même une bonne représentation. Donc on a invité un artiste de l'Ukraine, Rasti Troller. Donc c'est un artiste, Alek Lekoun, qui s'est pris un pseudonyme Rasti Troller, qui travaille dans le style conceptualisme. Donc il y a un hommage à une œuvre de Joseph Kashut, un artiste américain. Il a fait une œuvre sur les trois chaises. Donc il présentait une chaise réelle, une photographie d'une chaise et aussi une description d'une chaise. Voilà, et donc c'était une œuvre pour dire qu'on peut regarder chaise de trois façons différentes. Voilà, et chaque fois c'est une chaise. Et donc Rasti, il nous a présenté la quatrième chaise aussi. Voilà, donc, donc il y a aussi plein de petits formats très sympas avec les écritures, notamment avec les petits messages qu'il voulait passer. Il y a aussi Konstantin Botenkov, c'est un artiste invité qui habite toujours à Moscou. C'est un très bon dessinateur qui était un des fondateurs d'un groupe célèbre, Mitki. Donc, il est assez connu dans les anciens URSS. Donc, à la fin de l'URSS, c'était un groupe qui essayait de mettre un petit peu d'humour sur tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc. Il y a aussi un artiste, Andrei Bogatyrov. C'est un artiste qui habite en Russie. C'est un artiste malentendant. Et il fait des œuvres très, très curieuses. En fait, il essaye de revisiter des œuvres qu'on connaît déjà. Donc notamment, on a le baiser de Klimt, par exemple, qui a été fait avec deux personnages qui sont habillés complètement sportifs. Donc, il y a d'autres œuvres qui ont été également... Il y a les œuvres des artistes internationaux et aussi des œuvres des artistes russes qui sont un peu moins connus. Mais notamment, Vincent m'a dit qu'il faut que je le mette aussi pour présenter et pour expliquer après... qu'il y a aussi une histoire derrière, que ce n'est pas juste une image.
C'est souvent ça, hein. Souvent quand on achète une œuvre, c'est souvent on achète l'œuvre et puis ce que l'œuvre raconte. Alors des fois, c'est l'histoire qui est encore plus belle que l'œuvre, ça arrive. Hein. Bah, l'exemple typique, c'est Banksy, ce que je pense qu'il vend autant, c'est parce que les gens ne savent pas qui il est. Quoi. Après, c'est du pochoir, la technique n'est pas ultra compliquée.
Oui. Mais elle passe aussi des beaux messages.
Ouais, c'est un artiste, l'artiste dont on vient de parler, bon, j'arriverai pas à prononcer le nom correctement.
J'essaye jamais, hein, j'essaye plus maintenant, c'est pour ça que je la laisse, voilà. Ouais,
ouais. Mais en fait, oui, il y a quelque chose de gratuit et en même temps d'extrêmement touchant Parce que ça nous dit quelque chose sur une période de l'histoire russe contemporaine. Et en même temps, derrière ça, il y a beaucoup d'humour et d'autodérision. Et voilà, c'est ce que j'ai aperçu et qui m'a vraiment plu et qui paraît même un peu dans la continuation du punk, en fait, peut-être. Si tant est qu'il y ait eu des punks en Russie, je sais pas.
Oui, il y en a eu. Hein. Il y a des groupes de punk russes qui imprimaient en fait leur alors on va parler un peu vinyle, mais ils imprimaient leur vinyle sur des radiographies. Comme du coup, il y avait une censure par rapport à la musique. Donc, ils avaient trouvé une technique pour imprimer du coup sur l'espèce de PVC là qu'il y a dans les radiographies. Donc, ils partageaient la musique comme ça. Donc, ouais, c'est très célèbre. On peut retrouver des disques soviétiques punk. Mais voilà, qui a échappé à la censure grâce à cette technique. Donc pareil, une forme d'art dans l'art, quoi. On continue avec les derniers artistes qui sont présents.
Oui, donc il y a aussi une artiste, Katia Kamenieva. Donc c'est une artiste qui habite depuis déjà 30 ans à Paris. C'est une artiste qui travaille maintenant dans la technique de dessin avec l'encre de Chine. Et elle fait aussi la partie du collectif Quatrième Auteur, et c'est un collectif qui est assez connu. Donc, notamment, j'ai amené en galerie un livre sur l'art contemporain féminin. Et donc, parmi les autres artistes, on retrouve Katia et Quatrième Auteur sur cette édition de La Rousse. Voilà. Il y a 8 dessins conceptualistes aussi. Donc, et aussi un très sympathique travail de Igor Khadiev qui a déjà trouvé ses amateurs pendant le vernissage. C'est une peinture assez naïve, hein, proche d'illustration. Et c'est un artiste qui habitait à Moscou avant la guerre et après la guerre, comme beaucoup des autres artistes russes, a dû immigrer et donc maintenant elle habite à Monténégro.
Là, les tarifs, ils commencent de quel prix à quel prix? C'est quoi la fourchette de prix pour acquérir une œuvre?
Pour les gravures, ça commence de 30 euros et jusqu'à 400 euros pour les gravures de Marc Valentin, qui sont le plus complexes. Et pour les dessins sur papier, ça commence de 50 euros. Et les dessins le plus chers, donc ce sont des dessins des grands formats, parce qu'on a quand même présenté aussi trois très très belle peinture, dessin de Nina Mahler. Donc les grands formats, ça coûte 1800 euros. Donc là, c'est plus un achat personnel que pour un cadeau de Noël.
On fait un gros cadeau. Hein.
Mais c'était tellement beau que je n'ai pas pu n'ai pas les montrer.
Et vous, Vincent, c'est combien les livres?
Ça va de 7 euros jusqu'à 15 euros. Notre parti pris étant de, avec ces petits livres qu'on peut multiplier comme des petits pains, de les vendre le moins cher possible pour faire connaître cette belle technique et faire des émules. Voilà.
Alors nous, on n'a pas de femme serpent, mais on a Grand Blanc qui joue l'homme serpent. On écoute un extrait de l'homme serpent. Et juste avant, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel, on n'avait jamais fait, on offre 2 sapins Norman. Donc on a une petite page de publicité, on n'en a quasiment jamais sur Graphite, pour gagner 2 sapins Norman. Donc n'hésitez pas, vous pouvez écouter. En plus, c'est moi qui fais le spot, donc c'est un peu Inception. On se retrouve juste après, ça sera donc Grand Blanc avec l'homme serpent.
Tentez de gagner votre sapin de Noël Norman avec Radio Graphite et sapin de Noël à Compiègne. Jusqu'au 10 décembre, inscrivez-vous pour gagner un sapin de Noël Norman. Participez en laissant vos coordonnées par SMS au 06 95 065 026 ou en vous inscrivant à la newsletter sur www.graphite.net. Sapins de Noël à Compiègne sont installés cours Guimer à côté de l'ancienne piscine. Ils sont ouverts tous les jours non-stop jusqu'au 23 décembre de 8h30 à 20h30. Je me caille et mon sang-froid.
Grand Blanc sur les ondes de Graphite 94.9. Et puis ben, on vous rappelle ce petit concours, hein, si vous souhaitez organiser, enfin si vous souhaitez participer, vous laissez un SMS au 06 95 065 026, vous laissez votre nom, prénom, ou directement en vous inscrivant sur la newsletter de Graphite sur www.graphite.net. Le but, c'est qu'on récupère vos numéros de téléphone et vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer de la communication, donc n'hésitez surtout pas, et peut-être tenter de gagner donc deux sapins Norman. On reparle de l'exposition sur papier, peinture, dessin, photo, gravure, collage et livres. Ça se déroule à la Galerie de l'Est du 2 décembre au 7 janvier avec les éditions Voix de Garage. On parle un peu de l'exposition, de tous les artistes qui seront présents. Si vous avez pris l'émission en cours de route, évidemment, elle sera podcastable sur le www.graphite.net. Aujourd'hui, la Galerie de l'Est, c'est deux promenades Saint-Pierre-des-Minines à Compiègne. Là, l'exposition, c'est quoi? Il faut les œuvres qu'on achète maintenant, il faut attendre la fin de l'exposition pour venir les récupérer? Ou est-ce qu'on peut les récupérer pour Noël?
On peut les récupérer pour Noël. Donc j'ai quand même fait venir beaucoup plus des œuvres que je peux exposer. Donc j'ai aussi 4 caisses dans la galerie où on peut feuilleter. Donc si les gens achètent les œuvres pour les cadeaux, je les remplace.
Comment vous choisissez, Vincent, les artistes et les auteurs plutôt qui sont mis dans les livres? Comment par exemple sur lettres?
Ah oui, ben sur la lettre. Donc c'est un texte de Paul Celan. C'est un poète, je dirais, assez connu. Et donc en fait, pourquoi je me suis intéressé à Paul Celan, c'est que ça remonte au début de mon intérêt pour la typographie quand j'étais en Allemagne à Cologne. J'ai rencontré l'éditeur en fait de Paul Celan, qui est l'auteur de La Rose de Personne. Et j'ai un peu baigné dans cet univers, non pas germano-pratin, mais allemand. Donc avec les artistes colonnais de cette époque-là, c'est-à-dire des années 70-80, qui étaient encore vivants quand j'y étais, qui ont bien connu Joseph Beuys. Et Paul Celan, il a publié dans des revues à cette époque-là, et en expliquant son rapport à la langue. Donc il écrit une lettre à son éditeur, c'est une lettre qui n'avait pas été traduite en français, dont les spécialistes de Paul Celan bizarrement parlent beaucoup. Et moi j'étais un petit peu curieux, donc j'ai posé des questions à son éditeur, et puis cette lettre, je l'ai traduite et je l'ai gardée sous le coude pendant des années. Et puis là, j'ai obtenu l'autorisation de l'ayant droit français. Le fils de Paul Celan habite Paris. Il a donné son accord pour publier ce petit texte. Donc du coup, je l'ai publié et imprimé cette année.
Voilà. Donc comment ça se déroule? Il faut à chaque fois aller voir. Alors quand c'est des auteurs qui sont vivants, c'est facile, hein, on demande à l'auteur qui est vivant tout simplement. Mais là pareil, pour Cœur de Roi, comment ça s'est passé? Alors, là, c'est peut-être tombé dans le domaine public, du coup, pour ce cas-là.
Oui, Cœur de Roi est dans le domaine public, mais c'est pas... et en fait, c'est ça qui est d'un petit peu magique dans l'édition, c'est que, comme la typographie, c'est une culture. Et en fait, la culture, c'est quelque chose de gratuit, mais qui, en même temps, quand on l'utilise bien, génère une richesse. C'est un petit peu mon cheval de bataille. Quand on a un cerveau, on génère de la richesse. On peut partir de rien et faire quelque chose. L'imprimerie, c'est ça. On part d'outils et on arrive à quelque chose. Tandis qu'avec le numérique, il faut avoir de l'argent, il faut acheter du matos et ça coûte déjà d'emblée beaucoup d'argent.
Donc là, le fait d'arriver et de dire qu'on va faire un objet, les gens sont plus réceptifs que de dire je vais faire une réédition sur Internet en numérique?
Oui, c'est en effet ce qui permet de faire passer ces petits livres et c'est moi-même quelque chose qui m'étonne parce que j'ai commencé d'abord avec des petits tirages à 150 exemplaires et je suis surpris de voir des tirages que j'ai fait il y a plus de 5 ans dont les gens parlent encore à l'autre bout de la France et on me le rapporte par ouï-dire. Parfois je me dis je me rends compte que c'est pas rien de faire ça. Et c'est très beau. Ce sont des bouteilles à la mer, mais en tout cas, ces bouteilles à la mer, elles sont ramassées, quoi.
L'éveilleur, c'est quoi l'histoire de l'éveilleur? C'est quoi l'histoire de l'auteur?
Alors, l'histoire de l'auteur, c'est Cœur de Roi, donc, qui est exilé en Suisse après la révolution de 1848, qui se retrouve avec sa femme et qui se rend compte que la révolution en France, elle n'est pas possible, elle est empêchée. Et donc, il se met à écrire toute une série de textes. Alors d'abord, politiques, et puis en même temps, des textes qui sont, à mon sens, très... très poétique. Quand la politique s'arrête, la poésie intervient. Et là, je suis tombé sur tout un chapitre d'un texte sur le voyage d'un livre. Et justement, quand je vous parlais d'une bouteille à la mer, et ben là, c'est ce qu'il raconte. Il raconte que ce livre, bon, idéalement, ce serait transmis de main en main, plutôt par des femmes. Et donc, il parle de l'importance de ces écrits qui sont répétés, auxquels on pense, dont on rêve. Et donc, il y a quelque chose de très onirique, évidemment, puisque c'est poétique. Et Cœur de Roi étant un auteur dans le domaine public, mais finalement peu connu, et bien je me suis dit, allons-y. D'autre part, les œuvres complètes de ce poète philosophe sont disponibles aux éditions Héros Limite, donc un éditeur suisse. Donc c'est un gros volume qui coûte cher et donc moi ce petit chapitre je l'ai fait à la main et donc c'est moins cher mais imprimé sur un beau papier, il y a des jolies gravures donc voilà.
Ouais, vous le mettez à la fin que le texte a été édité ici de l'ouvrage Jour d'exil disponible aux éditions Héros Limite. On cite toujours ses sources un peu comme chez les journalistes, c'est ça?
J'essaie quand même. Ça permet de rester, d'être entouré. C'est-à-dire que l'éditeur Héros Limite, j'ai discuté avec lui. Pour les poèmes grecs de Simone Veil, j'ai parlé avec la personne qui a redécouvert ces poèmes. Donc en fait. L'édition, même la toute petite édition, si on la travaille bien, on ne peut plus parler de petite édition. On parle d'une édition, puis c'est tout.
Derrière, vous allez proposer des ateliers de sérigraphie ou de ce genre de choses, puisque maintenant qu'il y a un espace sous la galerie, est-ce que vous allez vous ouvrir au public pour qu'eux viennent aussi peut-être fabriquer des choses?
Peut-être. Pas pour cette exposition, c'est sûr, parce que ça nécessite beaucoup de préparation quand même.
Bien sûr.
Et mois de décembre, c'est un mois très très chargé, et notamment pour les libraires et les éditeurs. Mais pour la suite, oui, je pense qu'on va pouvoir envisager des ateliers.
Là, Vincent, on l'a dit, vous êtes typographe. C'est quoi les autres techniques que vous utilisez? Sérigraphie, lino, tout ça, vous le faites ou c'est vous qui avez fait les impressions?
Oui, la plupart du temps, c'est moi qui fais les impressions aussi. La linogravure, de toute façon, c'est de la taille d'épargne, donc c'est comme la typo.
C'est une impression, on presse quelque chose, quoi, en gros.
Alors voilà, oui, on presse. Voilà, donc on encre et on presse. Donc c'est vrai que c'est très très simple. La difficulté, donc, ça va être plutôt du côté des gravures au burin, puisqu'en fait, il faut mouiller le papier. Chaque impression de gravure, c'est entre... Et il faut déjà avoir du métier. Donc de longues années derrière soi pour imprimer ces gravures. Donc c'est entre une demi-heure et une heure pour sortir une gravure. Donc les burins, c'est les plus compliqués. La lithographie, c'est pareil, il faut être lithographe. Donc en fait, ce que moi je maîtrise, c'est la linogravure, tout ce qui est les impressions de clichés aussi, puisque ça, la clicherie, ça appartient aussi à la typographie.
C'est quoi la clicherie ?
Alors la clicherie, on fabrique des clichés en photopolymère, mais moi le photopolymère j'ai abandonné, parce qu'en fait les polymères, vous le savez, c'est un polluant. Et donc.
Et c'est quoi, s'il y a l'impression, c'est comme une photographie, c'est quoi, il y a un négatif et oui. Non, c'est un procédé chimique.
Oui, alors en fait, mais le cliché, il y a toujours un cliché, donc un cliché, une photographie. Après, il suffit de le révéler sur une surface qui peut être du plastique, du zinc, du plomb. Enfin, il y a plein de procédés. Et c'est vrai qu'on peut, ça peut faire appel. Enfin, c'est pas, ça peut, ça fait appel à des procédés chimiques. Et donc. Bon, voilà, chacun a ses petites recettes, ses petits secrets aussi, mais ça fait de beaux résultats à la fin. Sinon, à part la lino, on prend un morceau de bois et puis on taille son morceau de bois avec un couteau et puis on peut imprimer. Hein.
Il y a le tampon aussi, vous faites pas du tampon ? Parce que le tampon, c'est un peu la mode, on peut acheter un tampon.
Bah ouais, c'est vrai que je pourrais faire du tampon. Après, par rapport au tampon, ça marque pas assez le papier pour moi. Donc, j'utilise des encres d'imprimerie, donc des encres qui accrochent bien au papier. Et en plus, j'aime bien, surtout pour les gravures, mettre un peu de pression. Donc en fait, ça enfonce un peu le papier et ça lui donne un peu du relief. Je trouve ça beau, quoi.
Alors il y a des petits ouvrages là où il y a eu les pages sont encore collées entre elles, enfin pas collées entre elles, mais en gros elles sont juste pliées. C'est un choix. Le but c'est de découvrir nous-mêmes de séparer les deux pages. C'est un peu un accouchement du bouquin.
Bah, c'était un truc qui s'est encore fait longtemps au cours du XXe, c'est-à-dire ce qu'on appelle les brochets, en fait c'est la relure. Là en fait ce sont des cahiers pliés qui ne sont pas massicotés. Donc si les gens ont une cisaille ou un massicot chez eux, ils peuvent. Mais sinon il faut le faire avec un couteau.
Un couteau, ouais. Ouais, ou un couteau.
Non, ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait quand il y a des cahiers qui sont déjà prédécoupés avec des petits points. Donc là c'est absolument le coupe-papier parce que si vous prenez le couteau,
Va arracher.
Voilà, ça va arracher. Voilà.
C'est quoi les prochaines éditions ? C'est quoi les prochains ouvrages que vous allez éditer ?
Alors, les prochains livres, donc il y a peut-être quelque chose qui se prépare du côté toujours des Grecs, parce que ma particularité, c'est de faire du bilingue. Donc j'ai des caractères hébreu, grec et un petit peu d'arabe aussi. Et puis aussi un peu des hiéroglyphes, tant qu'à faire. Hein. Mais je vous rassure, c'est pas des langues que je maîtrise, enfin toutes. Je prépare un Héraclite parce que j'ai remarqué quand même que les gens sont très intéressés par les classiques et ce qu'on appelle les humanités. Donc j'ai fait déjà un Parménide, le poème grec et puis de l'autre côté sa traduction. Donc là l'Héraclite c'est pareil, il va y avoir les fragments d'Héraclite en grec et en français. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve plus, même dans l'édition classique. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Et moi, justement, ça m'intéresse. Donc vous avez ça. Je me pose pas mal de questions par rapport à un auteur originaire de Compiègne au XVIIIe qui s'appelle Mercier de Compiègne, qui a écrit L'éloge du Pé, L'éloge des Saints, enfin une espèce d'auteur libertin qui a vécu ici, là, dans la région. Et j'ai trouvé des petits écrits de lui il n'y a pas très longtemps. Et comme il était typographe... est issu du peuple. Alors il faut savoir que c'est très très intéressant la vie des typographes, parce que souvent ce sont des métiers de labeur, donc très durs, et souvent c'était des gens qui apprenaient à écrire, mais qui venaient aussi des couches de la population, des couches laborieuses, quoi. Donc vous avez donc peut-être un Mercier...
Cet auteur, vous l'avez découvert comment ?
Oh bah, ayant toujours traîné dans les livres, il y avait un éditeur dans les années 2000 qui avait publié L'éloge du P de Mercier de Compiègne. Je me suis dit, mais qui c'est celui-là? Et puis, en cherchant, j'ai trouvé pas mal de choses et je me rends compte que c'est encore un auteur intéressant à refaire sortir. Alors, j'ai fait la même chose avec un auteur d'Amiens qui s'appelle Jean Collin d'Amiens, et qui a écrit toute une série de textes sur la peinture. Et voilà quoi.
Là, justement, sur les poèmes grecs, vous nous expliquez la technique qui a été utilisée pour cet ouvrage ?
Ah oui, alors, donc, en tout cas, pour la couverture, c'est Nina Malheur qui a fait des lithographies. Il s'est trouvé qu'elle travaille en série, donc elle se met à produire pendant plusieurs mois des motifs. Donc là, c'est des motifs de montagne et de ravine. Et moi, quand elle travaillait, je l'ai vu à l'œuvre et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chutes par rapport à son travail et à ses œuvres. Et je me suis dit que ces chutes, je pourrais les récupérer pour faire des couvertures pour aller avec ces poèmes grecs traduits par Simone Veil. Voilà.
Et la couleur, là, l'espèce de sanguine à l'intérieur, c'est le choix de ce...
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est quoi comme couleur ?
Alors, en fait, donc, c'est imprimé sur un papier verger, donc c'est un papier de luxe, quoi. Ça l'a toujours été, d'ailleurs. Ce papier verger a toujours été considéré comme un beau papier qui dure plusieurs siècles. Et donc, l'encre, c'est une encre brune qu'on n'appelle pas forcément sanguine, mais qu'on appelle aussi sépia. Donc c'est un type d'encre qui me plaît et qui me paraissait aller assez bien sur le papier ocre jaune quoi.
Ouais, c'est une espèce de marron marron rouge.
Marron rouge, et c'est vrai que je l'ai utilisé aussi pour le cœur de roi. On peut s'attacher à des couleurs d'encre comme ça. Ça peut aussi faire réfléchir aussi simplement à la signification des couleurs et puis aussi à la façon d'imprimer un texte, puisque aujourd'hui, comme toujours, on imprime du noir sur du blanc, parce que c'était comme ça qu'on faisait, même avant l'invention d'imprimerie, l'encre était noire.
Où est-ce que vous avez récupéré les caractères, du coup, les caractères grecs, les caractères hébreux là sur lettres, où est-ce que vous récupérez ça?
Eh ben, en fait, je tourne dans toute la France, dans tout ce qui reste des anciennes imprimeries. Et donc, avec des vieux imprimeurs, on se partage du matériel et on récupère le matériel dont on a besoin. Voilà.
Donc, si vous avez du matériel chez vous, les gens peuvent vous contacter
Oui, tout à fait, parce qu'en fait... on peut aussi, y a aussi des ateliers partagés, notamment du côté de Valenciennes. Et donc, c'est du matériel qu'on utilise aussi pour sensibiliser, que ce soit des enfants ou des étudiants, pour aussi s'exercer. Et il faut savoir que, bon, les gens ne savent pas ce que c'est que la typographie. Et certains, quand ils passent une journée ou deux dans un atelier, bah, ils se disent, bah non, finalement, c'est trop de travail, je retourne à mon ordinateur. Mais par contre, parmi ces quelques-uns qui viennent nous voir... certains deviennent vraiment accros et ça pourra donner dans quelques années peut-être des bons typographes quoi.
Il y a vraiment un besoin de transmission de savoir, les vieux sont en train de quitter le métier, en train de mourir, en train de disparaître, ou est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui s'installe et finalement ça, la technique va rester?
Ben c'est pas gagné en fait. Et c'est ça qui est un peu excitant, puis parfois aussi décourageant, parce que non, ce n'est pas du tout gagné. On pourrait peut-être réveiller quelque chose. Mais vraiment, c'est quelque chose que je sens très fort, mais aussi chez plein de gens. Il y a quelque chose de pas maîtriser derrière tout ça, parce que c'est quand même l'imprimé, et c'est pas rien. Ça a touché l'enfance, des livres qu'on a pu lire quand on était plus jeune, donc il y a toute une série de caractères qui vont de toute façon disparaître, qui vont peut-être même pas être pris dans les fontes numériques, et ce qui est regrettable, c'est que tous les graphistes ne fassent pas plus de typographie manuelle. En fait, il faudrait quasiment exiger que tous les graphistes touchent au manuel.
Au début, à la formation.
Ça devrait faire partie du cursus. Il y a comme un malaise aujourd'hui entre le numérique et l'artisanat manuel. C'est vraiment... les réactions sont... On est dans l'irrationnel, on est dans le fantasme, et malheureusement pour la transmission des savoirs, mais ça concerne tous les corps de métier, c'est-à-dire les mécaniciens. Hein. Donc dans l'imprimerie, il y a de la mécanique, c'est-à-dire que les gens amoureux de vieilles mécaniques automobiles, je veux dire... Il y a la même problématique pour toutes ces vieilles machines. Et ces machines, encore aujourd'hui, elles ne trouvent pas preneur et on finit par les casser parce qu'on ne sait pas les utiliser. Et la problématique de la typographie, c'est aussi la problématique de l'offset. Et en fait, d'une façon plus large, ce qui se passe autour de la typographie, c'est le cœur de la production de ce que nous sommes capables de faire dans un circuit court, dans un petit cercle, dans un petit rayon. Et donc, pourquoi faire fabriquer des trucs en Chine voilà. Et c'est ce délire-là, il existe depuis, je dirais, une quarantaine d'années. Et peut-être que là, en ce moment, on va réussir à faire quelque chose. Mais là, pour réussir à fondre à nouveau des caractères, à produire de façon plus générale, on n'y est pas. C'est pour ça que c'est un savoir... partagé, indéfini, c'est-à-dire que c'est pas lié au nom de quelqu'un qui va être le dernier typographe ou l'imprimeur machin chose. Donc si vous m'appelez typographe, c'est bien, mais moi, au fond de moi, je m'en fous, parce que nous faisons partie d'un corps. L'imprimerie, c'est une véritable équipe, et c'est très très beau. C'est-à-dire que c'est des gens que je ne connais pas, mais que je vais rencontrer... la plupart du temps des anciens, et tout de suite il va y avoir une familiarité et on va se tutoyer.
Pour terminer l'émission, la bande passante.
Ouais, c'est ça, bande passante.
Ouais.
Alors, bande passante...
C'est auteur Picard.
Ouais, c'est ça, Ivar Chavard, auteur Picard, amiénois, qui est justement très sensible à ces histoires de fabrication, d'imprimerie, qui est en fait un grand poète qui généralement refuse d'être interviewé par la radio ou dans les médias, et qui pourtant a son public. Donc il a écrit une anthologie des fous et des crétins dans le nord de la France. Donc bien sûr, il y a beaucoup de second degré, mais aussi beaucoup d'affection. De temps en temps, il parle aussi Picard, mais son Picard, c'est-à-dire une langue inventée, c'est la langue d'un type tout seul qui parle la langue qu'il a entendu parler quand il était petit, et bien sûr, il la fantasme. Et ses textes, en fait, sont très beaux. Il le sait, et je le sais, et nous faisons... On fait suivre ses textes, quoi. Et pour moi, 10 ans après la naissance des voix de garage, d'imprimer ce petit texte, les bandes passantes, et de le diffuser, j'en suis infiniment heureux, et j'espère que ça va toucher les gens.
Alors là, du coup, il y a une illustration où on voit une femme qui monte son sein, et dedans, vous avez choisi un papier rose. C'est le choix du papier, le choix de l'illustration.
Bah oui, quand même, c'est toujours un petit peu voulu. Donc le papier rose, c'est un verger saumon. C'est ce que j'ai lu sur la vieille étiquette que j'ai découvert.
Pareil, c'est un papier de luxe, là, c'est ça ?
Ouais, c'est un papier de luxe. Ça, on le voit. La couverture, c'est un papier, je dirais, très sobre. C'est un papier craft fabriqué en Chine. Mais bon, ça aussi, je l'ai lu sur l'étiquette. Et ça ne fait pas de doute, c'est fabriqué en Chine. Parfois, il suffit juste de regarder la texture du papier, on voit tout de suite l'origine de la fabrication. Et puis, le petit saumon, là, le verger, ça, c'est fabriqué en France. Et c'est un papier qui doit avoir au moins 40 ans.
Et alors, le choix de la position, parce que sur Poème grec, le trait du papier, je ne sais pas comment ça s'appelle, il est plutôt horizontal. Là, les traits sont verticaux. C'est un choix, le positionnement ? Tu as réfléchi ?
En fait, il y a une règle. Généralement, c'est plutôt vertical.
D'accord.
Mais selon les formats de papier et la façon dont je les coupe avec mon massicot, parfois je commets des erreurs, mais des erreurs qui sont visibles, je dirais, par les gens qui sont dans le livre ou qui sont dans des anciens de la papeterie, et vont me dire « Non, mais c'est toujours vertical !» Et puis alors, je vais dire « Oui, je sais, je suis au courant, mais en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai fait avec ce que j'ai pu. »
Donc là, on a révélé un secret, quoi.
Bah ouais, mais en fait, il n'y a rien de secret, c'est une culture gratuite.
Merci beaucoup d'être venus tous les deux ce matin. On rappelle l'exposition qui s'appelle Sur papier, peinture, dessin, photographie, collage, avec, il y a combien, une quinzaine d'artistes, vingtaine d'artistes ?
Une vingtaine, oui.
Du 2 décembre au 7 janvier avec les éditions Voix de Garage à la Galerie de l'Est. La Galerie de l'Est, nouvelle adresse, même si c'était il y a plus d'un an et demi l'ouverture. C'est deux promenades Saint-Pierre-des-Minimes à Compiègne. Il y a un site internet évidemment, www.galerie-est.fr. C'est ouvert du jeudi au dimanche. Il y a des ouvertures spéciaux pour les fêtes. Est-ce qu'il y a des rencontres avec les artistes?
Il y a les ouvertures spéciaux, oui. Donc le 24 et le 31, on sera ouvert de 10h du matin jusqu'à 16h. Et il y a aussi un week-end spécial, 16 et 17 décembre. Donc ça va être une balade de Noël avec les artistes, artisans et créateurs. Ça va être sur la place et la promenade des Minimes. Donc ça va être aussi un partenariat avec Saint-Pierre-des-Minimes et l'artiste qui exposera à ce moment-là. C'est Junior qui fait des superbes œuvres en papier, et c'est aussi pour ça que l'exposition s'appelle Sur papier, c'est un petit clin d'œil.
Ça se répond, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aussi les artistes de Harmonie des Saisons, c'est la nouvelle boutique qui accueille des artistes, des artisans, des artistes créateurs dans le centre-ville de Compiègne. Donc voilà, une petite rencontre comme ça, et donc ça va se passer toute la journée de 10h à 19h 16 décembre et de 10h à 18h 17 décembre.
Merci à tous les deux, et puis retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de la radio avec le podcast sur www.graphite.net. Bonne journée, bon courage sur ce boulot, et puis à très bientôt, au revoir.
Au revoir.